France Inter.
À la une de ce 13h, la guerre des drones en Ukraine, deuxième nuit consécutive de frappes massives russes, une nuit de terreur jusqu'à proximité de la capitale. Nous serons à Kiev en début de journal. À la une également, ce témoignage à Gaza, témoignage d'un Palestinien, un oncle, qui a perdu 9 de ses 10 neveux et nièces hier lors d'une frappe israélienne sur la maison familiale. L'armée israélienne ouvre une enquête. En France, mais qui en veut aux installations électriques des Alpes-Maritimes. Hier, un pylône scié et la nuit dernière, un transformateur volontairement incendié près de Nice. Le maire Christian Estrosi porte plainte. Nous irons à Cannes où le courant est revenu et les stars reparties. Et à Roland-Garros qui a débuté à 11h. 5 Français sont en lice aujourd'hui. Il y aura les bonnes ondes de Sandrine Houdin en cette journée des fêtes des mères. Les cadeaux des enfants, ils ne sont pas toujours réussis, mais réalisés avec tellement de cœur.
En fait, avec les cannes, on a fait des fleurs avec la peinture. Et puis du coup, on a fait appuyer, soulever, et puis ça a fait des traces de deux fleurs.
Des traces de deux fleurs pour ce dimanche, Céline Dacosta, avec un temps perturbé sur le nord.
Oui, avec encore des averses entre les Charentes et la Lorraine. Le retour des éclaircies se met en place, en revanche, près de la Manche.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. Il était tôt ce matin en Ukraine quand le pays a une nouvelle fois été la cible d'attaques aériennes massives. Il y a au moins 12 morts. C'est la deuxième nuit consécutive de frappes intenses russes. Alors que le Kremlin doit rendre dans les prochains jours ses propositions pour une fin de conflit. Ce matin donc, les services d'urgence ont décrit une nuit de terreur dans la région de Kiev. Où vous êtes, Agathe Mahué? Bonjour.
Bonjour Eric.
Et une nouvelle fois, Volodymyr Zelensky appelle les Occidentaux à faire pression sur la Russie pour la contraindre à cesser ses attaques massives.
Oui, car chacune de ces attaques que le président ukrainien qualifie de terroriste, chacune constitue selon lui une raison suffisante pour de nouvelles sanctions contre la Russie. Et pour cela, en effet, Volodymyr Zelensky en appelle une nouvelle fois à tous ceux qui, dans le monde, veulent la paix. Le monde est peut-être en week-end, mais la guerre continue, dit-il encore, rappelant que le silence de l'Amérique et des autres ne fait qu'encourager Poutine. Nuit de terreur, hein, vous le disiez, Eric, sur Kiev notamment. Les habitants sont retournés massivement dans les abris, dans le métro. Alors que c'est un réflexe que l'on avait un petit peu perdu ces derniers temps, même si la menace ici est régulière, on vient de vivre en effet 2 nuits consécutives de forts bombardements. Des enfants ont été tués dans l'ouest du pays, des bâtiments détruits partout, près de 300 drones au total sur l'Ukraine. Et ces attaques semblent peu compatibles avec les promesses par la Russie de règlement du conflit, car c'est à l'issue de ce week-end durant lequel sont échangés massivement des prisonniers en ce moment encore, que le Kremlin est censé présenter les conditions d'un accord pour terminer cette guerre.
Les deux pays ont fait ce matin effectivement un nouvel échange de prisonniers, 300 dans chaque camp. Et il y a quelques minutes, la chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, a souhaité une plus forte pression internationale contre la Russie. C'était Agathe Mahué en duplex de Kiev. Dans la bande de Gaza également, Israël continue d'intensifier ses tirs. 20 personnes sont mortes ces dernières heures, dont une femme enceinte, un journaliste et un secouriste dans des frappes aériennes sur le centre et le nord de l'enclave palestinienne. Hier, 9 enfants d'un couple de médecins palestiniens sont morts dans leur maison, ciblés par l'armée israélienne, qui précise que cette frappe fait actuellement l'objet d'une enquête pour comprendre les circonstances. Ce matin donc, l'oncle de cette fratrie a témoigné devant un média palestinien, compte rendu avec notre correspondante en Cisjordanie, Amira Souilem.
Ils avaient entre 6 mois et 12 ans, une fratrie de 9 enfants fauchés en une frappe. Ali El Najjar, leur oncle, ne s'en remet pas. Il témoigne au micro d'un journaliste palestinien.
Je ne comprends pas pourquoi la maison de mon frère a été bombardée ainsi, pourquoi ses enfants ont été assassinés. Il est médecin, c'est peut-être pour ça qu'il a été visé, parce qu'il est médecin. Je ne sais toujours pas comment j'ai pu supporter la vision choquante de mes neveux brûlés. Leur corps était grillé, on ne peut distinguer ni visage, ni dos, ni mains. Certains avaient les mains et les jambes déchiquetées.
Des corps pulvérisés, au point que la famille dit ne pas être en mesure d'identifier précisément les cadavres des enfants. Une tragédie qui a suscité l'émotion de médecins du monde entier, d'autant qu'en mars déjà, l'armée israélienne avait exécuté 14 secouristes palestiniens dont les corps ont été retrouvés dans une fosse commune. Israël dit enquêter sur la frappe de vendredi. Depuis le 7 octobre 2023, ce sont des centaines de familles palestiniennes qui ont été complètement rayées de l'état civil, selon la défense civile de Gaza. Une estimation provisoire, car de nombreuses d'entre elles sont toujours sous les décombres.
Amira Souilem, correspondante de France Inter à Ramallah. Et concernant les frappes de la nuit dernière qui ont fait au moins 8 morts, la défense civile palestinienne affirme qu'il reste des personnes portées disparues sous les décombres. Mais les secouristes ne disposent ni d'équipement de recherche, ni de matériel lourd pour soulever les gravats et sauver donc les éventuels blessés. Aux États-Unis, Donald Trump a défendu ce matin sa décision d'interdire l'inscription d'étudiants étrangers à Harvard, décision bloquée depuis jeudi par un juge fédéral. Le président américain accuse l'université d'antisémitisme et de ne pas être transparente sur le profil des étudiants étrangers. Eh bien, parmi les élèves d'Harvard figure l'héritière du trône du royaume de Belgique, la princesse Elisabeth. Elle est inscrite à un master de politique publique et à Bruxelles, où vous êtes, Jean-Jacques Herry. Le palais royal garde un œil attentif sur ce dossier.
Après 3 années au Royaume-Uni pour étudier l'histoire et les sciences politiques à l'université d'Oxford, la princesse Elisabeth vient de terminer sa première année de master de politique publique à l'Harvard Kennedy School. À 23 ans, il lui restera encore une année à effectuer dans le Massachusetts afin de valider son diplôme. Voilà pour la théorie, car de fait, comme environ 6900 étudiants étrangers, soit plus d'un sur quatre sur le campus, la princesse héritière pourrait se voir empêchée de poursuivre son cursus universitaire aux États-Unis. Le palais royal explique suivre l'affaire de très près, mais il peut encore se passer beaucoup de choses entre l'annonce d'une telle décision et sa mise en œuvre effective, a néanmoins fait remarquer un porte-parole du palais. Aux États-Unis, la bataille s'est en effet maintenant déplacée sur le terrain judiciaire, une juge ayant temporairement bloqué la décision de l'administration Trump, et ce après une plainte déposée par l'université d'Harvard. Conclusion du palais, il est prématuré de s'inquiéter. Bref, la princesse Elisabeth ne se trouve pas encore en tout cas, au centre d'une crise diplomatique entre les États-Unis et le Royaume de Belgique. Bruxelles, Jean-Jacques Herry, France Inter.
La panne de trop hier sur le réseau social X et son patron Elon Musk estime qu'il doit désormais se reconcentrer sur la gestion de ses entreprises et donc diminuer encore un peu plus le temps qu'il consacre au gouvernement de Donald Trump. Emmanuel Macron entame en ce moment une tournée en Asie qui va le conduire à Singapour et Indonésie et ce matin, première étape à Hanoï au Vietnam, pays en forte croissance grâce notamment à ses exportations de vêtements et d'électronique vers les États-Unis, à tel point que Donald Trump menace le Vietnam d'une surtaxe douanière de 46%. Le gouvernement vietnamien est en train de négocier avec Washington. Négociation délicate, car il s'agit en même temps de ne pas fâcher son très puissant voisin chinois, Frédéric Saïs.
Oui, la diplomatie vietnamienne sur un fil en équilibre entre Washington et Pékin. Le Vietnam dépend largement du commerce avec les États-Unis. Un tiers des exportations sont destinées à l'Amérique du Nord. Du textile, mais aussi et surtout des ordinateurs et des smartphones. Voilà pourquoi les États-Unis enregistrent un fort déficit commercial vis-à-vis du Vietnam, 120 milliards d'euros chaque année. C'est ce qui a poussé Donald Trump à exiger un rééquilibrage sous la menace de droits de douane massifs. Alors Washington et Hanoï ont entamé des négociations, des contrats sont en cours de signature, le gouvernement vietnamien évoque des avancées positives. Mais pour autant, pas question de s'éloigner de la Chine, puissant voisin, 1200 km de frontières communes, Pékin est le premier investisseur étranger dans le pays. Xi Jinping s'est rendu au Vietnam il y a un mois, le président chinois y a présenté son pays comme un partenaire fiable et sérieux, sous-entendu, pas comme les États-Unis et leur imprévisible président.
Frédéric Saïs, rédaction internationale de Radio France.
France Inter, le journal de 13h, Éric Delvaux.
Encore un acte de malveillance contre des installations électriques dans le sud de la France. Hier, 160 000 foyers avaient été privés d'électricité plusieurs heures dans les Alpes-Maritimes, notamment à Cannes, après des actes de sabotage. Et bien la nuit dernière, Océane Zitouni, un transformateur a été incendié près de Nice. 45 000 personnes ont été privées d'électricité.
Un transformateur Enedis visé par un incendie criminel vers 2h30 du matin dans le quartier des Moulins. Le courant est revenu ce matin à 6h, mais la nuit a été compliquée pour Denise, habitante de ce quartier.
Il y avait plus d'heures, j'avais plus rien. Et donc je me suis dit, voilà, la panne. Il y avait tout qui était bloqué. Je voyais qu'il y avait un véhicule qui devait sortir à 3h du matin. Il ne pouvait pas parce que le portail est électrique. Tout, j'ai dit, on ne peut pas, il n'y a rien qui marche. Le téléphone, il était chargé, mais il ne marche pas, on n'a rien.
Deux blackouts en deux jours sur la Côte d'Azur. Difficile de ne pas faire le lien, questionne le maire Christian Estrosi.
C'est quand même surprenant que nous ayons un phénomène de cette nature hier dans l'ouest du département. Ce matin, sur l'ouest de la ville de Nice, il n'est pas exclu de pouvoir faire un rapprochement et d'autres tentatives à venir pour lesquelles nous sommes totalement mobilisés.
Mobilisés de par la présence policière renforcée sur tous les sites sensibles qui produisent de l'électricité, car ce ne sont probablement pas des amateurs qui agissent. Une enquête est ouverte pour destruction par incendie en bande organisée, indique le parquet et rappelle Christian Estrosi.
C'est la qualification du procureur qui, avec les images que nous lui avons transmises, que le procureur a pu qualifier.
Pas d'interpellation pour l'instant, informe le parquet. Des constatations, des examens techniques sont en revanche en cours pour préciser les dégâts et les modalités de passage à l'acte.
Océane Zitouni, ici Azur. Les taxis laissent encore planer le doute sur la suite à donner à leur mouvement au lendemain de leur rencontre avec le gouvernement, dont le ministre des Transports et celui de la Santé, Yannick Neuder. Le tournoi de Roland-Garros sera-t-il perturbé ? Y aura-t-il des conséquences dès demain sur les aéroports d'Orly et de Roissy ? François Bayrou est d'accord pour revoir sa copie concernant les courses dites sanitaires. Le gouvernement estime que les efforts financiers ne doivent pas reposer sur les seules épaules des taxis. Eh bien, ce sont des propos rassurants, reconnaît le président de l'Union nationale des taxis. Il s'appelle Rachid Boudjema et il attend beaucoup de la concertation qui va durer plusieurs semaines à partir de mardi.
Il y a toujours une détermination de la part de la base, c'est-à-dire de ne pas à nouveau subir une énième trahison des pouvoirs publics, que rien n'aboutisse. On a déjà vécu ça en 2014 et en 2016. Ce qui est rassurant, c'est que le ministre de la Santé sera de la concertation. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il a esquissé des pistes que nous, on trouve très intéressantes. C'est-à-dire que lui, il a très bien compris que les solutions d'économie ne pouvaient pas venir des taxis. Et ça, c'était une position qu'on n'avait pas entendue depuis longtemps. Donc là, plutôt, le ministre parlait de comment faire en sorte de mieux prescrire les besoins pour les transports. Et ça, ça avait du sens. Parce qu'encore une fois, faire payer à celui qui n'est qu'un exécutant, c'est vraiment ce qu'il y a de plus inique, plus injuste. Le Premier ministre a pris des engagements, retravailler sur tous les points bloquants. On a quasiment un mois et on a quasiment deux réunions par semaine sur chaque thème. Le transport de malades assis et la concurrence sauvage et déloyale des VTC. Et le Premier ministre a dit on prendra le temps nécessaire pour bien faire les choses. Ça semble être plutôt une démarche proactive.
Le président de l'Union nationale des taxis, joint par Laurent Kramer. Le tournoi de Roland-Garros, il n'a pas été perturbé ce matin par les taxis. On a craint à la limite quelques gouttes de pluie, mais les éclaircies ont permis les premiers coups de raquette dès 11h. Qui succédera à Carlos Alcaraz chez les hommes et Iga Świątek chez les femmes ? On aimerait que ce soit parmi les 27 Français inscrits cette année. On ne va pas se mentir cependant, hein, on sera déjà content de voir des Français encore en lice la semaine prochaine. Guillaume Batin, vous êtes en direct de Roland-Garros et 5 Français jouent aujourd'hui.
Absolument, et ça a commencé seulement pour le Français de 21 ans, le Lyonnais, classé 32e au classement ATP, Giovanni Mpetshi-Pericard. Il est sur le court Suzanne Lenglen et il est mené déjà dans la première manche, 5-3. Il a été breaké très tôt par son adversaire, le Belge Zizou, c'est son prénom, Zizou Bergs. Pour les autres, il faudra attendre un peu dans le courant de l'après-midi pour les voir. Valentin Royer, qui a changé d'adversaire, l'adversaire espagnol qu'il devait avoir, Roberto Carballes Baena, est déclaré forfait. Du coup, c'est ce qu'on appelle un lucky loser, un perdant chanceux du tournoi de qualification qui prend sa place. C'est le Colombien Daniel Galan, Quentin Alice, aussi à voir dans l'après-midi, Kyriane Jacquet, 24 ans, et la seule Française de la journée, je vais essayer de pas décorcher son nom, Tiansoa Sara Rakotomanga Rajoana. Elle est 238e mondiale et elle est invitée par l'organisation. Elle a seulement 19 ans. Ce sera évidemment un moment important dans sa jeune carrière.
Ouais, Guillaume, ce sera le premier Roland-Garros sans Raphaël Nadal, mais une cérémonie en son honneur est prévue ce soir vers 18h, cérémonie préparée dans le plus grand secret. Hein.
Absolument. Alors, je peux pas vous dire évidemment le détail, mais c'est sûr qu'on peut pas imaginer une cérémonie qui rend hommage aux 14 victoires de Rafael Nadal, l'Espagnol, ici à Roland-Garros, dans son jardin, sans voir de belles images de cette histoire-là, sans qu'il laisse aussi une trace définitive. Alors, il y a une statue de Rafael Nadal dans les allées du stade, mais peut-être qu'il y aura quelque chose en plus ici, dans le cours Philippe Chatrier. Et puis, on peut pas imaginer qu'il passe sa famille, qui n'est pas un représentant de la couronne espagnole, pourquoi pas le roi Felipe VI à ses côtés, et puis aussi les membres du Big Four, Djokovic qui vient d'arriver à Paris, Federer et Murray, pourquoi pas Wawrinka aussi. Il y aura ses meilleurs adversaires, sa famille c'est sûr, et 15 000 spectateurs qui ne savaient pas en achetant leur billet qu'ils auraient droit à ce moment, et ce sera sans doute plein d'émotions.
Et on verra ça ce soir, Guillaume Batin en direct de Roland-Garros. À Cannes, on range les paillettes. La 78e édition aura permis de couronner le cinéma iranien pour la deuxième fois de son histoire, Palme d'Or pour Un simple accident de Rafar Panahi, un goût de provocation en direction du régime des Mollahs, comme l'a souligné hier soir la présidente Juliette Binoche. Retenez aussi que la révélation féminine de ce festival a 23 ans. Elle s'appelle Nadia Meliti pour son rôle dans La Petite Dernière. Le film a reçu d'ailleurs la Queer Palme qui récompense le meilleur film LGBT+. En direct de Cannes, bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour Eric.
Vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux. Il faut tracer le parcours de cette révélation féminine. Nadia Meliti a été repérée dans la rue lors d'un casting sauvage.
Oui, elle qui n'avait jamais rêvé de cinéma s'est fait aborder sur le Pont Neuf à Paris par une directrice de casting qu'elle a d'abord prise pour une touriste. La timide Nadia Meliti a ensuite rencontré la réalisatrice Afzia Herzi et l'autrice Fatima Das, puisque La Petite Dernière est l'adaptation cinématographique de cette autofiction qui retrace le parcours d'une jeune femme musulmane pratiquante et homosexuelle. Juste après la cérémonie de clôture, j'ai pu recueillir la première réaction de cette comédienne charismatique mais surtout très humble.
Il s'est passé que j'ai rencontré des personnes très bienveillantes qui m'ont accompagnée, qui m'ont donné confiance en moi dans ce projet, qui m'ont amené à croire que j'avais des compétences même si je les avais pas au départ.
À ses côtés, la cinéaste Afzia Herzi, elle-même comédienne, découverte à 18 ans par le réalisateur Abdelatif Kechiche, est ravie de ce passage de témoin.
Le travail avec Nadia s'est très très bien passé, même si c'était sa première fois, j'avais pas l'impression de travailler quelqu'un qui n'avait jamais tourné, vraiment, sincèrement. Elle a vraiment une grande intelligence de jeu et c'est un film important avec un sujet important, donc on espère que voilà, ça attirera du public.
Ce très joli film et ce prix cannois pourrait bien propulser Nadia Meliti vers d'autres rôles.
C'est définitivement un métier qui me plaît, oui, effectivement.
Donc, et surtout, elle a vraiment beaucoup de talent, donc ce serait vraiment dommage de s'arrêter là.
Je suis validée par Afzia, donc que dire
de
mieux.
Je suis validée à 100%, c'est la relève.
Voilà, c'est sur la bande originale de La Petite Dernière et sur cette relève du cinéma français, fort justement récompensée hier soir par le jury de Juliette Binoche, que toute l'équipe de Radio France à Cannes vous salue chaleureusement.
Salutations que nous acceptons et on a hâte de vous revoir. La musique du film La Petite Dernière, merci de nous l'avoir mise en tête. Alexis Demeyer en direct de Cannes avec les moyens techniques de Marie Potier. Hier soir à la télévision, la cérémonie de clôture sur France 2 a rassemblé jusqu'à 2,3 millions de téléspectateurs. C'est un peu moins que l'année précédente. Voici les bonnes ondes de Sandrine Houdin. En cette journée de fête de toutes les mamans, on s'intéresse aux cadeaux des enfants. Le collier de pâtes, la boîte à camembert pour ranger les bijoux, les boucles d'oreilles en papier mâché et autres sculptures en coton-tige. Et bien parfois, les mamans redoublent de ruses pour ne pas rire et ne pas vexer les petits artistes. Confidence.
Je t'aime, maman.
Comme cadeau ? Bah, beaucoup de dessins. 1000 dessins, mais les dessins, on ne comprend pas ce que ça représente. Ou généralement, en plus, on va nous dire « C'est toi, maman ?» Merci.
Genre,
c'est un trait, par exemple, ou voilà. Décollage improbable.
Genre.
Bah, genre un pot de yaourt avec des petits trucs collés dessus, machin, qui est censé représenter quelque chose, donc voilà. Ou sinon, le bracelet. Des perles très grosses, en forme d'étoile, enfin des trucs assez kitsch. Mais tu le portes pas, maman ? Pourquoi ? C'est une question de taille. La taille ne va pas. désolée.
Je t'aime, maman.
Et vous, madame ?
Des fois, je disais, oh, ben, les coloris sont bizarres. Je disais, oh, c'est bizarre, c'est baroque. Ça, c'est... Parce qu'il y avait à dessiner aussi des petits animaux. Alors, des fois, et la tête était à la place de la queue, ou des choses comme ça. J'avais beau chercher, ben, ça ressemble à rien, en fin de compte.
Est-ce que parfois, vous avez fait semblant en disant, oh, que c'est mignon, que c'est beau ?
Oui.
Je t'aime, maman.
Et vous, madame ?
Le collier de coquillettes.
Vous l'avez vu ?
Oui, je l'ai vu. Et je dis, c'est très joli, ma chérie.
Décrivez-le-moi.
Un fil et des coquillettes, les unes derrière les autres, avec un peu de peinture.
Ah, quand même ?
Oui, c'était recherché.
Est-ce que vous l'avez porté ?
5 minutes.
Et les souvenirs de cadeaux de votre compagnon à l'occasion de la fête des mères ?
Il a osé me dire, tu viens choisir ton cadeau, il ne faut pas que ça prenne 2 heures.
Non.
Mais si.
Pour la fête des mères.
Pour la fête des mères.
Écoutez, moi j'ai eu un loup.
Non, j'y crois pas.
Et je vous assure.
C'était pour rigoler ou c'était sérieux ?
Ah non, c'était mon vrai cadeau, madame.
Ça sent le vécu. Qu'est-ce que vous avez eu ?
Un épilateur électrique.
Attention au cadeau de la fête des papas.
Ah, madame, de la suite dans les idées. Vous allez lui offrir quoi ?
Par exemple, savoir mettre une couche au bébé déjà. Et par exemple, juste faire tourner une machine à laver. Voilà. Tout simplement.
Je t'aime, maman. Un bisous.
Avec la chanson de Luis Mariano, bonne fête à toutes les mamans. Le temps.
La météo, avec le Boom Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Eh bien l'après-midi est encore pluvieuse sur une partie nord du pays.
Oui, on a la perturbation qui continue son chemin. On la retrouve cet après-midi donc entre les Charentes, la Champagne-Ardenne et la Lorraine, en passant par le sud de l'Île-de-France et la Bourgogne. Des averses accompagnées de bonnes rafales de vent. À l'arrière de cet axe pluvieux, là où la perturbation est déjà passée, ce sera plus calme, venteux toujours, mais avec le retour de quelques éclaircies parfois généreuses et très peu de pluie. Ça se situe entre le nord-ouest et les Hauts-de-France. Et puis à l'avant de cette perturbation pour les régions les plus au sud et à l'est, le ciel devient de plus en plus nuageux avec un risque d'averse sur le relief des Alpes et les Pyrénées-Orientales où là on pourrait même avoir un coup de tonnerre.
Mais les températures sont très douces, hein. On est proche des célèbres normales.
Oui, les normales de saison puisqu'on attend 17 degrés à Brest ou au Havre, 20 degrés à Paris et Dijon, 21 à Besançon et Limoges, 24 à Agen et Toulon, 27 à Marseille et même 28 pour Perpignan.
C'était Céline Dacosta.